innocent de nos premiers soupirs. Jeune inexpérimenté, toi belle blonde, bien roulée. Un effet de mode, tes fines en vogue. Moi je fais le paquet pour t'allumer dans ta triste. Tu te hisses à mes lèvres, ton goût et ton parfum à jamais dans ma sève. Je respire, inspire, ton élixir puis expire. Déjà peur d'être jeté comme un.
Allons bon, c'est toujours une souffrance de couper comme ça une superbe chanson française. Non, non, sans déconner, en plus, ce morceau est pas mal du tout. Il fait beau, il fait chaud, et vous écoutez la radio, vous êtes sur FMR 89.1 MHz, pour ceux qui nous écoutent en FM analogique, et sur le flux Ogvorbis, www.radio-fmr.net. Bonjour et bienvenue, nous sommes encore pour quelques heures encore dans les locaux actuels de la radio, et après, on nettoie. Oui, il faut attendre la fin, il faut se faire sortir les fauves pour qu'on nettoie tout le reste. En attendant, je vous rassure, le programme habituel va bien évidemment commencer avec, vous l'attendez tous, c'est l'arrivée du supplément week-end. Radio FMR présente. Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks. Avec du sport. Ultimatum. Excusez. Dastrich. Et la participation exceptionnelle de JB. Et oui, Thomas, une fois de plus, ne sera pas là, mais néanmoins, il sera avec nous, peut-être par téléphone, je ne sais pas, ça dépendra de l'insert. Bonjour, du soir, ça va bien ?
Oui, ça va.
Ah, ma foi. Toi, tu participes à la rénovation du studio ou...
Ouais, de mon côté, on va dire.
D'accord, moi, je vais rien foutre. Voilà, j'ai eu boulot cet après-midi, c'est une catastrophe. Oui, parce que pour votre information, à partir de tout à l'heure, 17h, jusqu'à lundi midi, Radio FMR sera éclipsée. Cela veut dire tout simplement que nous serons en train de déplacer la position satellitaire de notre système de diffusion de l'emplacement actuel à l'emplacement actuel, mais qu'on sera en train de faire un coup de peinture un petit peu partout. Pendant cela, ce sera une éclipse. Ce qui veut dire éclipse, ça veut dire que tout simplement, à la place, vous entendrez ça.
C'est pas évident, ça. Vous n'auriez pas par hasard un train qui partirait plus tôt?
Oui, non, je suis désolé, j'ai foutu les chansons au hasard. Mais je vous rassure, hein, c'est pas une raison pour écouter le Move, puisque nos amis de Booster FM s'en donneront à cœur joie jusqu'au bout. Mais Radio FMR sera de retour pour le direct à temps le 14 juillet pour, s'il vous plaît... Et oui, on sifflera la Marseillaise qui est strictement interdite, mais c'est rien que pour le bonheur et pour le plaisir, et pour notre côté un petit peu tendancieux. Bref, vous nous connaissez. En attendant, si Booster FM, les programmes ne vous conviennent pas trop, n'hésitez pas à aller plutôt sur supplementweekend.fr, écouter les émissions que vous avez manquées, voire participer au quiz actuel. Je rappelle qu'il y a deux classements qui sont ouverts aux audi lecteurs du site. Il suffit d'aller dans le club des audi lecteurs, vous inscrivez, et là après, vous pouvez voter. Alors on a deux quiz actuellement, c'est les films que vous auriez du mal à justifier comment vous les avez vus. Et un top 10, et un top 10 qu'on avait fait pour la 200e, c'est les bouquins que on est très heureux de vous avoir fait découvrir et que vous êtes très content d'avoir découvert. Donc je ne sais pas, sera à vous. On avait fait un classement des gens qui étaient dans le studio. On fait un appel aux auditeurs pour participer, pour donner leur propre classement, savoir si oui ou non on vous a influencé dans la lecture, s'il y a des choses qui vous ont plu, oui ou non. Bref, on n'en serait pas mécontent. En attendant, il fait beau, il fait chaud, alors allez pique-niquer un peu dehors, n'allez pas à la prairie des filtres. À partir de 20h, c'est fermé. Alors là, la mairie a fait quelque chose de très fort. Pour nos auditeurs qui ne sont pas sur Toulouse, en fait, Toulouse, c'est la ville rose, etc. C'est-à-dire, c'est de la brique. Mais il y a surtout ce fleuve qui est la Garonne. Et on a une grande bande de terre, mais c'est vraiment un jardin public qui est très grand, qui s'appelle la Prairie des Filtres, qui est sur les bords et sur lequel ben, il y a souvent des activités. On peut faire du foot, on peut faire du rugby, il y a des pique-niques, il y a des marathons, des trucs comme ça. Là, cette année, la mairie a décidé d'y mettre Toulouse Plage, la pâle copie du Paris Plage, qui est organisée, si je ne me trompe, par une boîte de com. Et comme il y a eu des plaintes des riverains la dernière fois que ça a eu lieu à cet endroit, ils ont dit, c'est très simple, à 20h on arrête. C'est pas on arrête, c'est on ferme la Prairie des Filtres. C'est-à-dire le moment où c'est le plus agréable d'y être. Il y a beaucoup de monde en journée à la Prairie des Filtres, mais le soir, il y en a On a pas mal aussi pour profiter, pour faire des pique-niques, des trucs comme ça. Ben hier, on faisait un pique-nique avec nos amis du Toulouse Carnet. Non, cerrada, cerrada. Fermé. Niette, pas rentré. Ah, on était là. On l'a peu apprécié. Je vois pas l'intérêt, franchement, de mettre le Toulouse Plage à cet endroit, alors qu'au Parc des Expositions, c'était l'endroit tout trouvé, parce que c'est un endroit qui habituellement est fermé et qui est tout aussi au bord de la Garonne, et qui en plus maintenant est desservi par le métro. Là, l'avoir mis à cet endroit où c'est le dernier grand jardin public de Toulouse en centre-ville qui soit ouvert 24h sur 24, et où il y a beaucoup de gens qui y vont en plein été, là, le fermer le soir, mais je ne comprends pas... Alors, il y a une amie qui n'est pas connue pour ses tendances politiques, je vais dire de droite, loin de là, qui a dit que notre maire a encore fait une belle cohénerie. C'est un jeu de mots que j'apprécie encore plus, parce qu'elle est théoriquement du même bord politique. Donc, comme quoi, c'est franchement décrié et tout le reste. Mais ça, vous en foutez si vous habitez pas sur Toulouse, mais bon, ça nous tient à cœur. Non, du sport, lui, il s'en fiche. Lui, quand il fait un pique-nique, c'est dans son jardin. Grillade à volonté, je suppose, au poisson.
Ouais.
Bon, d'accord. Ce soir ?
Ouais, peut-être.
Ouais. Oh non, dodo, il y a plein de trucs sur TF1 que j'ai encore l'enregistrement de samedi dernier. J'ai pas maté. On a commencé sortie bande dessinée avec beaucoup d'œuvres graphiques d'excellente qualité. Il y a 3 bouquins et ils sont tous, à tomber, il n'y a pas d'autre terme. Alors je regrette que l'on n'ait pas eu le temps de préparer pour faire le débrief de Japan Expo par ceux qui y ont été allés, c'est-à-dire pas nous. On va parler d'une bande dessinée sud-coréenne, mais attention, si vous êtes féru de culture japonaise, il y a beaucoup de choses qu'il faudrait que vous sachiez à propos du Japon. Si vous ne l'avez pas trop oublié, le Japon a fait partie de l'axe du Troisième Reich, était un allié de l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, et a commis des atrocités. Il ne faut pas oublier qu'ils ont occupé la Corée du Sud de à peu près 1905 jusqu'à 1945. Ils n'y sont pas allés par 4 chemins. Kim Hong-mo est un dessinateur sud-coréen. Sa nouvelle série s'appelle L'Armée de la Résistance. Ce premier tome s'appelle Prélude à la Résistance. C'est dans la collection graphique Novel Adult Made in Shikana, filiale du groupe Dargo. Et ça se passe dans un monde uchronique où le Japon a non seulement gagné la Seconde Guerre mondiale, mais en plus a dominé le monde entier grâce à son industrie atomique et robotique qui construit des engins de police qui disséminent à travers le monde. Les robots patrouillent donc dans les dominions du Japon du Japon impérial, et parfois sortent sans raison leur lame affûtée pour couper les membres des malheureux qui passent à côté d'eux, que cela soit des enfants, des mères de famille ou des vieillards. So-hee, jeune et belle étudiante, voit encore de trop près une de ces atrocités. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, la goutte de sang qui n'aurait jamais dû être versée. Ce sera le signal, celui d'une population qui veut regagner son indépendance, qui ne veut plus la protection trop bienveillante du Grand Japon et de sa zone de coprospérité économique. Et celui où les manifestations se termineront systématiquement par des bains de sang. Kim Hong-mo a été emprisonné à la toute fin de la décennie 90 par la dictature alors en place en Corée du Sud, juste avant la démocratisation. Donc, être emprisonné pour ses idées, pour ce qu'il a exprimé dans ses bandes dessinées, il sait ce que c'est. Il est en opposition directe à la fois contre les relents d'extrême droite de son pays pour un retour à la dictature militaire. Oui, hein, quand même, il y en a des masos. Hein. Contre les relents conservateurs japonais prônant le négationnisme de l'histoire. Je rappelle que tous les ans, le Premier ministre rend ses hommages aux soi-disant héros de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire justement aux tortionnaires. Et ça se passe juste à côté du palais impérial de Tokyo. Et tous les ans, y a des Coréens qui se coupent le petit doigt publiquement en signe de protestation. Et contre la tutelle de la Corée du Sud par l'américaine en cas de conflit, puisqu'il ne faut pas oublier que en Corée du Sud, justement suite à la partition par rapport à la Corée du Nord, les États-Unis ont une importante base militaire sur place. Car cela en fait beaucoup. On imagine bien que derrière sa fiction où il dénonce le Japon, c'est les États-Unis, les gendarmes du monde, qui l'attaquent. Et évidemment, cette histoire change de portée avec l'arrivée de la présidence de Barack Obama. Ça fait encore une série qui vieillira mal après le départ de George W. Bush. comme il y a eu 24, comme il y a eu Jericho, comme il y a eu plein d'autres séries de ce genre. Justement, il y avait une portée politique très forte sur le côté, je veux dire, unique superpuissance des États-Unis sans contrepartie. Mais d'un autre côté, c'est pas si sûr, car après tout, la Corée du Sud comporte toujours la plus grosse base américaine permanente à l'étranger. L'Irak n'est pas considéré comme une base militaire permanente. On imagine bien que ce genre de fiction sortira d'ici 20 ans en Irak ou en Afghanistan. Chaque planche est une aquarelle avec une texture superbe et une expressivité impressionnante. L'œuvre est graphiquement très très belle, le scénario bien monté, mais doit être lu à la fois avec un minimum de culture historique mais surtout d'esprit critique. Parce que, attention, il faut faire très attention à ce que dit l'auteur. Il dit certaines choses qui sont vraies, mais après, faut peut-être faire la part des choses, comme dans n'importe quel bouquin, je vais dire, avec une portée politique, une fois de plus. Kim Hong-mo, L'armée de la résistance. Ce premier tome s'appelle Prélude à la résistance et dans la collection Made in chez Kana. Raison et problème de nationalisme, d'impérialisme et de haine entre les peuples avec Will Eisner au cœur de la tempête, c'est chez Delcourt. Will Eisner, c'est un dessinateur immensément célèbre aux États-Unis qui a eu un prix à son nom et un festival de son vivant. C'est vous dire la portée immense qu'a eu cet auteur. Il est disparu il y a environ 2 ans, mais vraiment c'est quelqu'un.
C'est pas lui qui a eu aussi l'un des premiers prix au festival, l'un des premiers festivals d'Angoulême. C'est lui qui a eu le prix direct au premier, je crois.
Premier, effectivement, il a eu le grand prix de la ville d'Angoulême.
Enfin, direct, quoi. Genre,
il n'y a pas eu beaucoup d'auteurs étrangers qui ont eu le grand prix de la ville d'Angoulême. Hein. Il n'y en a eu même pas une dizaine sur, allez, pratiquement 30 ans. 35 ans, pardon.
Ouais, mais lui, il a eu le tout premier,
voilà, il a été président du deuxième, il s'y est joué, ça veut dire quand même que c'est quelqu'un qui est... Ils auraient pu le donner, je sais pas, à Hergé, à Franquin, à Uderzo qui y était à l'époque, et Uderzo, c'était franchement ses meilleurs albums qui sortaient à ce moment-là. Donc on l'a donné à Will Eisner, et ça n'est pas un hasard.
Non.
De ce côté-là, Will Eisner a inventé littéralement... D'abord, c'est lui qui a inventé la notion de graphic novel. Ensuite, il a inventé toute une graphie, des tas de manières de faire des mises en scène. Si vous lisez les planches des deux époques qu'il a animées, hein, du Spirit, il y a de l'invention, il y a un peu de tout, des affiches de théâtre de Toulouse-Lautrec, des affiches de cinéma, et en même temps, des mises en scène absolument inédites qu'il n'arrêtait pas de recréer. Il ne s'est jamais complet dans, un certain ronron. Il a des tics, bien sûr, mais ils sont tellement nombreux, et il les a inventés, que voilà, c'est un auteur qui est immense. On ne peut pas placer ça autrement. Donc, il y a le Spirit, bien sûr, qui est immensément connu, qui a été adapté, et c'est pas un hasard, au cinéma par Frank Miller, qui lui aussi est un immense auteur.
Qui sort en DVD, d'ailleurs, là, en ce moment. Quoi.
Voilà, on en reparlera, même si l'adaptation du Spirit n'est pas considérée comme... Enfin bon, c'est un autre débat, j'ai pas vu le film, donc je peux pas juger. Mais il a aussi produit, Will Eisner a aussi produit beaucoup de one-shot sur la nature humaine. Et que ce soit à la fois sur... Sa propre religion, sur les humains en général, mais je veux dire, sa religion n'est pas un état de fait qu'il impose, loin de là. Il donne sa vision justement d'une manière qui est beaucoup plus sobre et soft que d'autres. Ici, il parle de lui, mais aussi de sa famille. Comment et dans quelles circonstances ses ancêtres ont quitté l'Europe pour venir en New York, les problèmes de communauté et les haines intercommunautaires, mais aussi la guerre. Car Will Eisner raconte dans cette histoire ce qu'il considère comme vraiment son initiation au monde adulte, son service militaire pendant la Seconde Guerre mondiale et comment justement il a dépassé ses préjugés communautaires pour s'ouvrir à ses camarades de chambre, à ses camarades de combat, à ceux qu'il a connus. Il le suggère dans l'histoire, il laisse entendre dans son introduction. Ça, il le raconte pas vraiment. En fait, ce que l'on suit, c'est uniquement son voyage en train vers sa première affectation. Et à partir de ses réflexions dans un voyage en train en 1942, il va raconter, en flashback, l'arrivée de sa grand-mère en 1880. Comment, parce qu'elle était très pauvre et que cela était inconvenant, elle a refusé de se marier à un médecin qui était célibataire, et un médecin ne pouvait pas s'installer dans un quartier riche et avoir une clientèle s'il était célibataire, c'était forcément suspect. Je sais pas, il aurait pu être homosexuel.
Eh oui.
Voilà, donc il fallait qu'il soit marié. Lui, il était prêt à se marier, à tirer cette personne-là, je vais dire, de la pauvreté. L'autre a dit, non, c'est inconvenant, on est peut-être de la même religion, mais pas exactement la même communauté, je peux pas. C'est comme ça. Comment elle a préféré finalement un peintre arrivé en 1914 de Vienne, le même peintre qui a fui la conscription obligatoire de la guerre et qui a vu des jeunes de son âge se faire éborgner pour éviter l'armée. Même aux États-Unis, l'antisémitisme de certains immigrés qui est resté dans les esprits en Amérique. Il parle de l'antisémitisme qu'il a vécu parce qu'il était en fait dans un quartier d'Irlandais. Et aussi les méfiances et les défiances entre les différentes communautés juives de New York. Ça, c'est comme ça. Comment était mal vue l'amitié du jeune Will Eisner avec un jeune d'origine allemande? Comment la montée du nazisme se faisait ressentir dans les différentes communautés new-yorkaises? Mais aussi le père de Will Eisner qui lui a appris que la violence ne résout rien, avec des méthodes très élégantes justement d'éviter de passer par là. Et on le voit en même temps dans ses tentatives malheureuses dans le monde des affaires, les petits boulots du jeune Will comme vendeur de journaux et enfin ses premières planches publiées dans les quotidiens. Graphiquement, passé la superbe couverture, on retrouve le dessin à l'encre de chine qui est la marque de fabrique de ses graphic novels. Dans toute son œuvre, Will Eisner utilise une palette d'effets graphiques et de narration, de mise en scène qui est absolument hallucinante. Chacun de ses bouquins est un enseignement de ce côté-là. L'histoire qu'il raconte est bien évidemment captivante, mais on se plaît à relire son bouquin, à peine fini, rien que pour le plaisir de découvrir la mise en scène de ses planches. C'est une leçon d'humanité contre les haines imbéciles, et surtout comment surmonter ses préjugés communautaires. Et une fois de plus, Will Eisner se montre un auteur immense et indispensable dans l'histoire de la bande dessinée et de la culture. Will Eisner au cœur de la tempête, c'est chez Delcourt. Ouais, comme les trois bouquins de cette semaine, moi je vous les recommande absolument, c'est une très bonne lecture pour l'été. Premier juré pour débrief Japan Expo, je vais essayer de me démerder d'avoir quelqu'un par téléphone la semaine prochaine. C'est ma faute, voilà, j'ai pas pris le temps d'appeler les amis. Il est midi 18 dans le Super Weekend, on entame la dernière BD. Alors ça c'est une série dans le format franco-belge, c'est-à-dire bouquin, cartonné, grand format, couleur. Un peu plus que 48 pages, hein, je crois, 64. Ça s'appelle Robin, c'est de Pierre Boisserie au scénario et Eloré au dessin. Il aurait éteint un pseudo et son prénom, c'est Robin.
T'étais entre les deux, 56.
au pif, hein, mais non, mais j'ai pas vérifié. Voilà,
non, pas
c'est
mal,
ma faute.
56, c'est entre les deux.
J'aurais dû sortir un chiffre au hasard, mais bon. Robin, le premier tome s'appelle Les Trois Bâtards. Ça vient de sortir aux éditions 12 bis. Et comment dire ? Je sais pas si vous vous souvenez, Régis Loisel avait fait son Peter. Et bien tout comme Régis Loisel était revenu aux sources de l'histoire de Peter Pan, Boisserie et Loré ont voulu faire table rase de la version disneyenne de l'histoire de Robin des Bois pour mieux asseoir leur version du prince des voleurs. Alors, des trois bâtards dans le titre, le premier est Robin, c'est un bébé qui a été confié au Locksley, de modestes parents, pour lui éviter un funeste destin dans la succession mouvementée d'un comté. Ah oui, un gamin... Oh, c'est si vite trébuché dans le feu. Son père, forestier à Sherwood, est un archer renommé, appelé par le roi à former ses troupes. Mais la sauce ne prend pas entre les Normands qui ont conquis l'Angleterre et le Saxon, l'Oxley. Il est vrai qu'on est au XIIe siècle et que Guillaume le Conquérant a annexé l'archipel depuis un siècle. Le deuxième est les Petits Gens. Enfant non reconnu d'un éminent membre de sa très sainte église, il sera adopté par les moines d'un couvent. Sa mère étant morte pendant l'accouchement. La troisième est Marianne, qui vit dans l'entourage royal du généreux prince Richard et de son fourbe frère Jean. Bien peu de chances que ces trois-là se croisent, mais leurs destins seront liés et ils entreront ensemble dans l'histoire. Mais avant ça, Robin deviendra un fugitif suite au meurtre de ses parents adoptifs par le shérif de Nottingham. Ce sera l'étincelle qui mènera le jeune garçon à la tête d'un mouvement de rébellion. Bon, attention, c'est quand même sanglant, c'est carrément explicite, donc ce n'est pas franchement un bouquin pour gamins, mais plutôt pour adolescents. Je vais pas mettre macaron moins 16, je mettrai plutôt le moins 12. Mais...
Oh, allez.
On va parfois pire, je vais dire surtout au JT. Mais graphiquement, c'est léché, c'est parfait, c'est superbe. L'histoire oscille entre des moments d'humour et les drames. Le dessin suit ses ambiances parfaitement. C'est le début d'une série qui va bien faire son chemin, malgré le piège de travailler avec des personnages qui sont archi connus, archi stéréotypés. Les auteurs s'en sortent avec les honneurs, et pour moi, c'est une série qui va bien se développer. Ça me semble évident. Robin, le premier tome, s'appelle Les Trois Bâtards. C'est Pierre Boisserie au scénario et Loré au dessin. C'est aux éditions 12 bis. Et il n'y a pas à dire, ça roxe des mamans ours. Connais l'histoire du Spirit ?
Oui, plus ou moins, ouais.
Tu sais que au départ, c'était une commande à Will Eisner. On lui a dit « Ah, il y a Superman qui marche, Batman qui marche. Il me faut un super-héros ou un justicier en cap. Il faut qu'il ait des pouvoirs surnaturels. » Alors, qu'a fait Will Eisner ? Il a fait mourir un détective, et puis il est revenu entre les morts. Mais en fait, le seul élément de costume qu'il a, c'est juste le loup. C'est tout.
Et son petit masque.
Voilà, au départ même, je crois qu'il avait une cape qu'il a vite fait tomber, donc il a juste un loup. Donc c'est assez rigolo et amusant, et en même temps, le Spirit était plutôt humoristique d'ailleurs, il y avait plein d'éléments, c'est auto-parodique. Oui. Tout ça pour dire que j'essaie de faire une transition avec ses fils indignes et de mauvaise qualité, mais ma foi complètement commerciaux. Donc je t'en prie.
Nouvelle sortie, la sortie de juillet en fait du Marvel Heroes. On est toujours dans Secret Invasion, ce qui fait qu'il y a toujours des Skrulls en couverture. On va y avoir droit, je crois, jusqu'à la fin de l'année. Avec toujours les quatre séries qui sont de Marvel Heroes, à savoir Thor, Hulk, les Vengeurs, l'Initiative et les Puissants Vengeurs. Puissants Vengeurs, c'est bien entendu scénarisé par Brian Bendis avec Stefano Caselli au dessin. Là, c'est une histoire qui est supposée être en amont par rapport à l'invasion secrète qu'on peut suivre dans les différents épisodes, voire même dans les précédents épisodes des Puissants Vengeurs, hein, où c'est déjà le bordel et tout. Les Skrulls sont déjà partout, ont déjà tout envahi. Et là, il s'agit d'une histoire qui est située un petit peu en amont et qui concerne Nick Fury. Nick Fury qu'on a vu apparaître lors d'une des premières histoires de l'année 2009, où justement Nick Fury revenait et avait conscience qu'un danger guettait la planète Terre, et ce danger, c'est bien entendu les Skrulls voulaient envahir
la Terre.
Je croyais que c'était ce, que la seule adaptation cinématographique c'était avec David Hasselhoff.
Non, pas du tout, pas du tout. Et là dans cet épisode donc, et dans cet épisode donc, eh bien Nick Fury, lui eh bien il va réunir une nouvelle équipe de héros ou de super-héros comme tu veux. Enfin là on c'est plutôt des gens qui sont bien entraînés et tout, qui connaissent toutes les techniques commando, les techniques d'espionnage, enfin et tout team, qui ont pas vraiment de super pouvoirs mais qui peuvent le faire tranquille. Et donc eh bien ils vont subir un certain entraînement de la part de Nick Fury pour savoir s'ils sont suffisamment costauds pour contrecarrer l'offensive des Skrulls qui ont donc envahi la Terre. Et c'est pas mal, c'est bien foutu. Ensuite dans Thor, eh ben c'est pareil, on a encore une nouvelle fois une histoire. Faut dire que du côté de Coipel au dessin et de Straczynski au scénario, si pour Straczynski au scénario ça va bien,
ouais.
Du côté de Coipel au dessin, ça rame un peu au niveau des délais de livraison. Et donc de temps en temps ils sont obligés de mettre ce qu'on appelle des fill-in, c'est-à-dire des histoires de personnages qui sont complémentaires, ouais. Qui n'ont rien à voir avec l'histoire principale qu'on est en train de suivre, mais qui ne gêne pas non plus hein, cette histoire du tout. Et là, il s'agit
c'est
d'un...
pour ça qu'on voit des fois Nick Fury acheter des clopes.
Ouais.
Bon, là, on arrête là alors, le combat, je vais m'acheter des clopes.
Oui, non. Là, bizarrement, si tu veux, dans l'épisode de Nick Fury, là, il fume pas beaucoup de cigarettes. Hein, il en fume pratiquement pas. Alors là, bien, il s'agit d'un one-shot de Matt Fraction avec eh bien, le combat de Thor contre une magnifique viking. Oh là là là. Là, là.
Ouh, j'aime bien et les après... pare-chocs avant de la demoiselle.
Oui, mais ils sont blindés. Hein. T'as vu
oh, bah, avec Nick Fury, c'est un peu obligé. Je te rappelle que le logo du Shield, non, c'est non, une vierge de fer.
Là, il s'agit de Thor. Là, là on est à Asgard, quoi, si tu veux. Quoi. Et également.
Je me verrais
eh bien
avec
le combat...
une descendance divine.
Oui, d'abord le combat de Thor, donc. de
non,
Thor
Chantal,
contre,
non
contre Brunhilda, et ensuite le combat de Thor contre son propre père Odin, et Odin qui va le destituer de ses pouvoirs, quoi. Dans ce one shot. Ensuite, on a également Hulk.
À l'adolescence.
Et là, Hulk, c'est-à-dire le Hulk rouge a viré au gris et eh bien débarque à Las Vegas pour fouter le Y. Et d'abord, il se fait un petit peu lutiner. Enfin, un petit peu embêté par des Wendigo qui avaient déjà jeté leur dévolu sur ce temple de la débauche et du vice qu'est Las Vegas. Et bon, un petit peu de baston. Ensuite, c'est Moon Knight qui essaye de s'interposer. Et l'épisode s'achève sur l'arrivée.
Laisse-moi deviner sur l'arrivée de mince.
De Miss Marvel et de Sentry.
Ah non, moi j'aurais plutôt vu le King et Elvis Presley, ça aurait eu plus de classe.
Mais attends, c'est pas fini, là c'est le début du fight là. Hein. Parce que le vrai Hulk n'est pas encore arrivé à Las Vegas.
Ah, coucou.
Non, mais ce qui est assez marrant, quoi, c'est que dans le Vengeur Initiative, hein, c'est-à-dire les jeunes Vengeurs, en fait, eh bien, ils se rendent également à Las Vegas. Dans l'épisode précédent, il y a plus qu'un membre de l'initiative, c'est-à-dire 3D Man, l'homme 3D, qui lui, grâce à sa lunette de vision, il arrive direct à voir qui est un Skrull, qui n'est pas. Tu vois, même quand ce sont des Skrulls qui sont déguisés en autres super-héros, lui direct il arrive à voir que c'est un Skrull. Et donc il fait alliance dans le précédent numéro avec une équipe qu'on avait déjà vue dans les années 70 et qui s'appelle les Creveurs de Skrull et qui dégomme du Skrull comme ça parce que et puis qu'il le mange en plus quoi, parce qu'il paraît que c'est vachement bon et donc ils vont descendre également
là.
Non, et ils vont descendre également lui 3D Man et les Creveurs de Skrull vont descendre également à Las Vegas pour essayer de foutre le bordel là-bas et essayer de dégoter tous les Skrulls qui s'y trouvent. Et on a également donc dans cette initiative toujours scénarisée par Dan Slott et Christos Engage, eh bien ces histoires excellentes de toute façon. Enfin moi j'adore hein, pour l'instant quoi, ça tient vraiment bien la route de toute façon. C'est le Marvel Heroes et comme dans le Spider-Man et comme dans le Marvel Icon et comme dans le X-Men de ce mois-ci du mois de juillet. Si vous l'achetez, vous avez bien entendu une litho originale. Ça, c'est le numéro 4.
C'est pas mal.
C'est toujours Mirko Djordjevic. Hein.
On ne bouge plus pendant la photo. Oh, ça va.
Voilà, c'est pas mal. Voilà, donc ça, c'est la sortie. Donc Marvel Heroes, le numéro 21 du mois de juillet.
18h30, c'est l'heure de la publicité.
Catch féminin maintenant avec dans le championnat Super Vixen un coup de filet dans les gros bonnets spécial D, spécial E.
You, you, you. Do you know that bad girls go to hell?
Ça c'est du sport tous les samedis 13h parce qu'il n'y a pas que le foot sur FMR.
Pendant que j'essaie d'obtenir mon correspondant, on va se foutre une interruption musicale. Un morceau qui est très très long. Donc voilà, Song for the Man, Shed My Skin de D-Note. Je rappelle que c'est un groupe d'acid jazz au départ. Viens à l'antenne peut-être.
Mixeur Xavier.
Excuse-moi, mais je peux pas m'empêcher de faire le con quand je vois des boutons, donc tu me connais, ça c'est le truc de base. Bon, on n'arrive pas à joindre Thomas qui est sur la route, hein, donc tant pis.
Il ne faut pas téléphoner au volant, donc.
C'est jamais lui qui conduit. C'est comme il a eu son, comme il a le permis landais, il peut aller que tout droit, donc c'est un petit peu dangereux pour peu que tu aies un virage de 5 degrés sur l'autoroute. Voilà quoi. Non, c'est hyper dangereux en voiture automa. Pire que moi, c'est dire. Allez, van complètement déplacée à part. Dis-moi, je n'ai pas le bon fond sonore parce que je crois qu'on va parler bouquin.
Ah ouais, ben ouais, allez, hein, c'est l'été, quelques petits polars, dont le Michael Connelly. Je vais pas dire le Michael Connelly d'été parce que bon, il en sort quand même pas un par année, mais c'est pratiquement le cas. Hein, lui qui a commencé par un petit prix Pulitzer dans les années 90, début des années 90, en 92, à l'occasion d'un reportage qu'il avait fait sur les émeutes à Los Angeles. Puis, pour son premier roman, Les Égouts de Los Angeles, prix calibre 38 et prix... comment il s'appelle ?
Pulitzer ?
Non, pas le Pulitzer, non, ça a un nom aussi, quoi, le prix l'Edgar Award, voilà, du meilleur premier roman. Ensuite, il y a eu bon, les bouquins qu'on connaît hein, tous avec Harry Bosch, hein, c'est-à-dire Harry, c'est le diminutif de Hieronymus Bosch. Puisque okay. Il est d'ascendance, sa mère a été tuée. Ça fait d'ailleurs, l'occasion d'une histoire dans laquelle il découvre la vraie origine du meurtre de sa mère. Sa mère est morte, elle était soi-disant plus ou moins prostituée, enfin bon, femme de mauvaise vie, on va dire, et tout. Et elle adorait ce peintre Hieronymus Bosch, et c'est pour ça qu'elle a prénommé son fils Hieronymus, puisqu'elle s'appelait Bosch également, comme le père.
Et donc, les perceuses.
On connaît d'autres bouquins de lui, bien sûr, hein, Le Poète, prix Mystère en 97, Créance 200, qui a été adapté à l'écran par Clint Eastwood, puis dans les années 2000, Wonderland Avenue, Darling Lily, Los Angeles River. Le Michael Connelly qui vient de sortir il y a quelques mois, il y a un mois ou deux, c'est Le Verdict du Plomb. Mais par contre, moi je vais vous parler de celui qui est sorti l'an dernier, qui s'appelle À genoux. Toujours une enquête de l'inspecteur Harry Bosch. Et là, bien, il s'agit au départ eh bien, d'un meurtre tout à fait classique, on va dire. Hein, un type qui est exécuté, une balle de, deux balles dans la tête à genoux. Du côté de Mulholland, on est toujours à Los Angeles. Mais là où ça va commencer à se compliquer, c'est qu'en fait eh bien, le FBI va intervenir, une brigade spéciale du FBI chargée bien des crimes anti, chargés de l'antiterrorisme, et ils vont se rendre compte que il s'agit d'une enquête dans laquelle eh bien, le LAPD et le FBI vont plus ou moins collaborer, mais enfin bon, genre toujours en se cachant des petits trucs. Pourquoi ? Parce que bien, il y a également un vol d'une matériel radioactif qui est également à l'origine donc, du déplacement du FBI, puisqu'il y avait du césium je sais pas combien, qui se trouvait dans le coffre de la voiture du type qui a été descendu. Et donc l'enquête est résolue de manière assez classique, on va dire. L'enquête est pas terrible, il n'y a pas des rebondissements, des histoires à tiroir, des trucs comme ça et tout, mais bon, c'est bien mené et tout, c'est du Connelly quand même. Mais ce qui est plus intéressant en fait, hein, c'est la façon qu'il a de décrire en fait eh bien, le travail conjoint, on va dire entre guillemets, entre la police de Los Angeles et justement cette nouvelle brigade anti-terrorisme, anti-radioactif, tout ce que tu veux. Et c'est surtout de dresser le constat un petit peu de ce qu'est devenu un petit peu de ce que sont devenues les agences du gouvernement, que ce soit la police, que ce soit le FBI, que ce soit d'autres départements après le 11 septembre. Donc encore un bouquin qui fait un état des lieux sur ce qui se passe, sur cette espèce de conscience collective qui a complètement changé aux États-Unis, que ce soit à New York qui a pris de plein fouet le choc du 11 septembre, ça on s'en souvient quand même, mais également quelques milliers de kilomètres de l'autre côté des États-Unis, c'est-à-dire Los Angeles, où il ne s'est vraiment rien passé du côté du terrorisme, hein. Il n'y a pas eu de gros faits marquants, mais quand même, il y a quand même une espèce de culture du 11 septembre qui commence à se développer et tout. Et c'est cela dont Michael Connelly parle assez intelligemment, justement, et c'est cela qui est peut-être plus intéressant à suivre que l'enquête. Bon, brillamment menée comme d'habitude par Harry Bosch, ça y a pas de problème et tout. Il refait équipe, il a un tout nouveau partenaire hispano, mais il refait équipe également avec une nana profileuse du FBI qu'il a connue. Même intimement d'ailleurs dans une précédente aventure, l'aventure tirée du bouquin d'Echo Park. Donc c'est Michael Connelly à genoux, c'est sorti en petit livre de poche comme ça en point, hein, donc il n'y a pas de problème, ça coûte pas trop cher, ça se lit très 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 facilement de toute façon. Mais si vous pouvez, vous pouvez toujours commencer par le début, hein, les égouts de Los Angeles, le poète, la glace noire et tout ça, pour connaître, parce que ce qui est très intéressant, c'est le développement du personnage d'Harry Bosch. Et c'est pour cela que dans le film Créance de sang, Clint Eastwood n'a certainement pas choisi ce bouquin de Connelly au hasard. C'est un bouquin dans lequel Harry Bosch, dans le bouquin précédent, fait une crise cardiaque et on doit lui remplacer le cœur. Et donc il subit une transplantation cardiaque. Et dans Créance de sang, en fait, on va reparler de cette transplantation cardiaque parce que on retrouve l'inspecteur Bosch qui là, c'est plus le mec qu'on a connu bien vaillant, l'inspecteur de police bien entraîné et tout, physique et tout, qui a fait la guerre du Vietnam et tout. Mais c'est un mec qui doit bouffer ses médicaments chaque jour pour les médicaments anti-rejet, tout le bordel et tout. Donc il n'a plus la force physique qu'il avait avant. Et c'est bien rendu par Clint Eastwood et tout. Quand il fait une poursuite avec un mec et tout, au bout de 20 mètres, il s'arrête, il est soufflé, putain, je peux plus le suivre et tout. Je suis crevé parce que je suis sous médication, j'ai plus mon cœur et tout. Et dans Créance de sang, justement, l'histoire, c'est une nana qui vient le voir et tout pour retrouver sa sœur disparue. Et en fait, il apprend que la sœur disparue, c'est elle disparue morte. Et sa sœur a envie de savoir pourquoi elle est morte. Et en fait, c'est le cœur de cette nana qui a atterri dans le ventre de Harry Bosch et tout. Donc c'est vraiment très très bien foutu. Mais il vaut mieux commencer par le début pour suivre un petit peu l'évolution de cet inspecteur Harry Bosch. Michael Connelly donc à genoux, c'est sorti l'an dernier chez dans la collection Point.
Bonjour JB. Ah, excuse-moi.
Sans micro,
okay.
Ça va être dur.
Ouais, c'est jamais les bons. Non plus. Vas-y, réessaie. D'accord. Que dalle. Je suis désolé.
Est-ce que tu m'entends?
Ouais, oui. Là, celui-là, il fonctionne.
On va sûrement faire comme ça.
Je crois
et
que tout simplement,
de micro.
Il était éteint. Est-ce que tu vas bien?
Oui,
oui, super. Donc tu vas pouvoir me remplir ça puisqu'on a un chroniqueur en moins. Je crois que tu as deux chroniques de BD et une de film.
Oui, tout à fait, pour la semaine prochaine.
Encore loupé. Encore loupé du sport. Non, mais là, c'est pas la peine. Hein. Oui, parce que en fait, tous mes micros sont mélangés.
Non, mais je l'ai mis sur on, là.
Oui, donc c'est bien ce qui me semblait.
Ouais, c'est ça, mec, si tu veux.
Je croyais que c'était une bonnette inversée.
Non, mais c'est les manies de Roddy, tu sais. Toujours éteindre le matériel quand il a servi.
Ouais, Bruce, il fait toujours croire qu'il a été Roddy de Michael Jackson, non?
Ah, oui, bien sûr.
Ouais, puisqu'il a été. Ah, complètement à part, donc.
Ah ouais.
On enchaîne sur quoi? La téloche?
Ouais.
Allez.
Alors, on lance le générique. De quoi?
Je trouve qu'il y a une ressemblance avec le générique ciné Chouyou Pat et compagnie.
attends, il y a la montée du synthé là. Il y a la montée de synthé.
Ding, 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 ding. plus comment ça s'appelle justement quand ça suit l'inverse de la montée du thème.
Yes,
en plein réganisme, ça.
Yes,
hein.
Super.
J'adore en plus quand le héros, tu sais, il fait son violoncelle avec l'aigle, ouais, sur le lac, ouais, et tout, etc.
C'est top moumout.
Voilà, le regard dans le vague parce qu'il était bien alcoolisé, ouais. Et un an après, il a fait de la prison parce qu'il avait quelques hectares de bœufs sur sa propriété.
Ouais. Jean-Michel Vincent.
Voilà le nom de l'acteur.
Qui s'appelle?
Stringfellow Hawk,
yes. et c'est pour ça qu'il voit le faucon. Hawk. Mais c'est vrai en plus. Oui, c'est pour ça qu'il y a l'histoire du violoncelle et tout.
Enfin, c'est vraiment typique des années Reagan. JB, on parlait tout à l'heure des séries qui ont mal vécu.
La bonnette à JB en est tombée. Il nous regarde avec des yeux comme des soucoupes.
Qu'est-ce que vous avez fumé avant de venir là?
C'est quoi les extraterrestres et tout? On te parle de supercopter. On te parle de Supercopter,
oui,
excellente série créée par Donald Belisario, NCIS, mon gars.
Et l'inventeur de la technologie du sèche-cheveux.
Avec le grand Aaron, bien entendu, Spelling. Et avec, bien sûr, le faire-valoir de Jan Michael Vincent, Stringfellow Hawk, c'est Ernest Borgnine. Ah bah ouais, pas n'importe quoi. Et là, il ne conduit pas un taxi.
Non, celle-là, non, pitié.
Ah ouais, d'accord. Mais c'est plutôt le copilote. C'est le copilote.
Celui qui répare au fer à souder, vous savez, quand il y a eu des tirs.
Ouais. Je vous parle.
Dans quoi, Ernest Borgnine, il conduit un taxi? Non, je suis largué là.
Dans New York 1997.
D'accord, moi j'ai vu d'autres films avec lui, donc pour moi.
Surtout italien, je suppose.
Non, je me souviens plus du tout dans quoi il a tourné, mais j'ai.
Les Douze Salopards.
Non, moi j'ai d'autres films.
Je vous parle justement de Supercopter, on démarre là-dessus, parce que si vous ne connaissez pas, ou si vous avez loupé le début, on sait jamais, sur Virgin Z ce soir à 20h35, épisode pilote de Supercopter.
Ah, les jeux.
Non, mais il vaut le coup, il est pas mal. Non. Ça démarre vachement bien, moi je trouve, quoi. Non, mais c'est vrai.
Moi j'en étais resté à l'épisode pilote avec Berlusconi qui dit et maintenant la 5 Beaujolais. Excusez-moi.
Non, mais là il est parti là. Laissez. Non, plus sérieusement, non, cet épisode vaut le coup. C'est pas mal. Bon, après, c'est vrai, c'est Supercopter.
Supercopter,
ok, ça a le ton que ça, mais ça se laisse regarder quand même.
Le ton républicain.
Non. Donc, ce pilote qui s'appelle Trafic de filles en deux parties. Ce soir sur Virgin 17 à partir de 20h35. Alors, du côté des séries, d'autres séries, eh bien, il y a une série dont j'ai pas parlé la semaine dernière, et pourtant elle démarrait jeudi dernier sur W9. Je me suis dit c'est une petite série, ça a pas l'air terrible et tout, je préfère ne pas en parler parce que des fois je me plante, des fois c'est vraiment des pires, des sombres merdes, faut le dire quoi. Même si c'est anglais, des fois on arrive quand même à tomber sur des trucs qui sont pas top quoi, parce que l'Angleterre a été souvent mise en avant comme étant un pays, une nation qui produit au travers de la BBC et des chaînes privées d'excellents joyaux qui sont d'ailleurs repris par les Américains par la suite. Il y a plein d'exemples comme ça. Le dernier, c'est Life on Mars. Sinon, on avait Cuirass Folk également, dont on a fait des versions américaines.
On a eu State of Play, où le film
State
vient de
sortir. Dont le film Jeu de Pouvoir vient de sortir et tout.
Compris, on va faire un pot pourri des séries anglaises.
Mais par contre, des fois, il y a des trucs qui sont un petit peu moins bien. Je pensais que cette série rentrait dans le lot. Je m'y suis attardé un petit peu quand même, histoire d'avoir un avis un petit peu honnête, quoi, et de pas passer à côté de quelque chose d'intéressant. Ça s'appelle Honest, braqueur de père en fils. Alors déjà, le titre, on se dit, faut se méfier quand même. C'est sur W9, jeudi à 20h35. Et en fait, c'est l'histoire d'une famille qui vit plus ou moins dans l'illégalité. Le père, la mère et les quatre enfants. Et là, le père, une fois de plus, se retrouve... C'est un petit peu... le même style que The Riches, hein, c'est-à-dire bon bah ils vivent que de combines, que de trucs illégaux, de cambriolage, de trafic, tout ça. Le père se retrouve au trou et la mère prend une grosse décision, à savoir d'essayer de gagner sa vie honnêtement, c'est-à-dire sans trafiquer, tout ça. Donc chacun va devoir se mettre au boulot. Alors il y a la mère et les quatre enfants, il y a les deux fils. Qui sont des jumeaux, des frères jumeaux, et ensuite il y a deux filles. La première fille, elle pense qu'à devenir mannequin et tout, alors c'est vachement rigolo, c'est vraiment très très bien traité. Et la deuxième fille, elle qui est en train de suivre des études de droit, mais c'est excellemment traité, hein, c'est l'humour un petit peu anglais comme ça, un petit peu noir et tout, mais qui déborde parce qu'il y a un rythme qui est pratiquement le rythme. Van sitcom, quoi, c'est-à-dire
attention au pied, JB,
une van toutes les 10-15 secondes, mais ça dépote à fond les manettes. C'est vachement moderne, c'est vraiment très très intéressant. Les acteurs et les actrices jouent très très juste, hein. Amanda Redman en premier lieu, de toute façon il y a également Danny Webb, Matthew McNulty et bien d'autres. C'est excellent. Malheureusement, on nous a passé 3 épisodes jeudi dernier sur W9, on nous en passe encore 3 jeudi prochain à partir de 23h35, et ce sera tout parce que la première saison ne fait que 6 épisodes, malheureusement. Et là, pour une fois, eh bien, moi qui dénigre systématiquement le fait de traduire et de passer les séries en version française, mais là pour une fois la version française n'est pas trop dégueulasse, hein. On arrive quand même à traduire pas mal de petites vannes qui sont quand même des private jokes vraiment anglaises, quoi, so british.
Cookney.
Mais
Cookney,
ça
plutôt.
Passe quand même très bien, vraiment c'est assez appréciable, avec des petits gimmicks comme ça qui n'ont rien à voir, qui font un petit peu décaler, complètement déjanté et tout. C'est vraiment très très bien foutu, quoi. Honest Braker, père en fils, c'est sur W9, donc jeudi prochain à 20h35.
J'avais oublié un générique.
Ah, lequel?
Devine.
Allez, vas-y.
Would you mind a cup of tea?
Obligé.
Ah bah oui, surtout que la saison 2 est rediffusée sur France 4 à partir de vendredi prochain.
Mais là, très honnêtement, je recommande sincèrement la version originale par rapport à la version française. Ne serait-ce que parce qu'ils ont fait un traitement d'image qui est catastrophique, puisqu'ils avaient coupé l'image, ils avaient fait un pan and scan pour le mettre en 4 tiers. Maintenant que France 4 diffuse en 16.9,
non, mais ça, c'est la merde,
ils écrasent l'image, ils la rorognent encore pour la passer en 16.9 parce qu'ils n'ont plus les masters. Dans le genre crétin, mais
c'est
des fois,
quoi.
Mais c'est n'importe quoi.
Alors,
à ce stade, on le passe en 4 tiers, et puis voilà, on n'en parle plus.
Ouais, ça me fait penser que j'ai loupé City Homicide hier soir, donc c'est un peu les boules, quoi. Mais par contre, une nouvelle série, c'est sur France 2 à partir de lundi, 22h10. Ce qu'il y a de très intéressant, c'est que France 2 ne passe qu'un seul épisode par semaine. Donc là, pour l'instant.
J'ai manqué celui de dimanche dernier.
C'est une nouvelle série canadienne qui s'appelle The Border et qui prend également en compte ce dont je parlais avant à propos du bouquin de Michael Connelly, à savoir il y a l'avant et l'après 11 septembre. Et ça déborde même jusqu'au Canada. Et c'est vrai que politiquement parlant, comme il y a une très forte communauté musulmane au Canada, hein, qui est très importante, les Américains considèrent...
Très bien mis en valeur d'ailleurs dans l'excellente série La Petite Mosquée dans la Prairie.
Ouais, tout à fait.
D'ailleurs, de manière très juste, c'est humoristique, mais c'est bien vu de ce côté-là.
Non, c'est bien foutu, c'est vraiment très,
de ce côté-là,
bien foutu.
C'est franchement remarquable.
Voilà, alors donc, les Américains considèrent plus ou moins le Canada comme une espèce de base arrière du terrorisme, hein, c'est-à-dire la première base arrière, la plus proche, et donc, essaient de se protéger également de
ce qui se passe. C'est parce que là-bas, il n'y a pas autant d'armes vendues, et en plus, ils ont le droit de fumer de la beuh, c'est pas normal.
Alors, de ce qui se passe donc au Canada. Et The Border, qui veut dire la frontière. Hein,
t'as pas la BO de South Park, là, avec Mover Against Canada, ou un truc comme ça?
Non, celle-là, je l'ai pas, tiens.
Ah, dommage. Alors, c'est créé par Peter Raymond, Linda Lee, Tracy, Janet McLean et Jeremy Hall, et ça raconte donc l'histoire d'une unité des douanes et de l'immigration au Canada, donc dirigé par le major Mike Kessler, interprété par James McGowan, et ça raconte donc leurs histoires avec lui et toute son équipe par rapport au même service américain, et donc de son homologue américain joué par la magnifique Sophia Milos, c'est Bianca La Garda. Donc c'est The Border, C'est créé par la CBC, hein,
la télé publique canadienne,
13 épisodes lors de la première saison.
Anglophone.
Ça marche très très fort et une deuxième saison a déjà été reconduite, hein, donc ça peut valoir le coup. C'est sur France 2 à partir de lundi prochain, 22h10. Il n'y a qu'un seul épisode, donc je rappelle. Ce soir, sur France 3, à partir de 20h35, eh bien, c'est la série de l'été en ce qui concerne France 3 et série franco-française, s'il vous plaît, avec 5 épisodes, donc 5 samedis à réserver sur France 3. Enquête réservée, réalisateur Patrick De Wolf, et avec quelqu'un qu'on connaît bien, un acteur qui est à mon avis très sous-estimé parce qu'il est quand même vachement bien, quoi, c'est Jérôme Anger. Et oui, Docteur Sylvestre. Et bon, bah, c'est vrai que quand on est français, qu'on tourne dans une série comme ça, épisode genre Roger Hanin ou Victor Lanoux ou Gérard Klein à l'Institut.
T'es coincé à vie
dans une espèce de rôle, une espèce de composition. Hein, Jérôme Anger, donc c'est Docteur Sylvestre. Alors que le même Docteur Sylvestre tournait dans la série Akran, Akran 2, et se révélait tout à fait excellent dans cette série qui n'a rien à voir avec le Docteur Sylvestre. Et Jérôme Anger, là, bien, a le rôle principal, donc enquête réservée des équipes de la gendarmerie chargées de résoudre des crimes. Et c'est le gros bordel parce que ça se passe pas vraiment bien
entre les services. La bande-annonce, c'est pas mal. Hein.
Ça va être le fight entre Jérôme Anger, qui interprète le commandant Saint-Mathieu, et Yvon Bach, déjà aperçu dans Crime en série, série avec Pascal Légitimus,
voilà, qui est devenu le profileur.
Et Yvon Bach qui joue le rôle du commandant Chapelle. Donc c'est ce soir à partir de 20h35, 1h30, donc 5 épisodes. Ça veut dire que sur France 3 le samedi, eh bien, on va avoir droit à Jérôme Anger encore un petit bout de temps. Bah, on avait déjà Docteur Sylvestre dans le temps.
Tu sais que je peux enregistrer que 2 chaînes à la fois, hein, pas 14.
Ah bah oui, c'est dommage.
Et que les journées ne font que 24 heures.
Tu sais, on a plusieurs Freebox, hein. Chacun la sienne,
on peut se démerder. On enregistrer en low résolution et puis voilà.
Alors par contre, je sais que tu avais loupé cette série absolument magnifique qui me ravissait à chaque fois que ça passait, produite par RTL allemande.
Der Autostrassen Motorbike, hein.
Non, pas du tout.
Der Clown.
Non.
Alors, der Copter.
Non.
Der Explosion Kaboom.
Ça passe sur W9 à partir de mercredi prochain, 23h15.
Il faut dire que
c'est le...
Non, ça, c'est pas une production.
Ça, c'est à la fin, ça.
Ça, c'est pas une production...
J'ai pas dit Berlin, hein, j'ai dit Hambourg.
Non, mais ça, c'est pas une production, Kaboom Production, là.
Non.
Comment il s'appelle ? C'est Copter Production, je crois, qui font toutes les séries de la RTL où tu as des...
Non, je parlais des allumeuses, bien sûr. C'est 4 nanas dans le lycée.
Oui, non, mais ça, si je regarde ça, Chantal me fait déjà la gueule quand je regarde les groupes de Idol sur nos lives. Alors là, tu vois,
c'est... Ah non, là,
et même quand tu regardes Déco sur M6 aussi.
Hein, tu peux y aller à fond les manettes.
Même aussi quand tu regardes Déco sur M6 aussi.
Non, ça, je regarde.
Ah oui, t'as droit.
Non, ça, elle regarde. Moi, je peux pas.
Ah oui, évidemment.
Attends, au même moment, je peux pas louper.
Déco.
Ah oui, non mais attends, je peux pas louper à ce moment-là sur Bloomberg, il y a leader de l'économie, c'est magnifique. Non, je déconne.
Il parle de Bloomberg, ben, moi je vous parle de 4 allumeuses, donc qui sont lycéennes, hein, donc mais qui sont à l'âge de passer leur abitur, à savoir le bac allemand, et qui d'ailleurs, vous parlez d'économie, font leurs études dans un lycée qui s'appelle le lycée Hans Martin Schleyer.
Oui, qui est le ministre de l'économie.
Qui a été le patron des patrons, hein, une espèce de salière allemand, et qui a été assassiné par les Brigades Rouges dans les années 70, donc c'est assez rigolo pour ça. Moi, ça me fait toujours rigoler et tout, quoi. Mais bon, donc il y a Dirk Walter, il y a Simon Hauselmann, Laura Oswald et Saskia de Lando. Alors, c'est absolument magnifique. De toute façon, les épisodes sont des fois moins 10, des fois moins 12 pour les plus osés. Celui avec le God, ouais, justement, il est moins 12 parce que bon, c'était un petit peu trash quand même, mais c'est vraiment un humour qu'on n'a pas l'habitude de voir, hein, chez nos collègues teutons comme ça, quoi. Et bon, c'est vraiment rafraîchissant, ça vaut le coup et tout. C'est très très rigolo quoi. C'est sur W9 donc, à partir de mercredi prochain 23h15. Vous avez loupé les premiers épisodes de la saison 1 qui sont passés mercredi dernier. Ne loupez pas ceux de mercredi prochain. Et bien sinon, en série, il y a également bien entendu KDD. Alors KDD, il n'y en avait pas hier soir parce qu'il y avait l'opéra de
bah, tu pouvais venir.
Wolfgang Amadeus Mozart, Idoménée.
Bah, tu pouvais venir au Toulouse Carré.
Oui, mais, avec et, je prépare comment l'émission
Ben comme moi, hein, tu te les réveilles le matin à 7h du mat.
Ça. Oui, non, mais bon.
Ah oui, il faut suivre les drogués en même temps.
Tu, ouais. tu vois la pile de disques.
Oui, d'ailleurs, j'ai remarqué que t'avais pas encore foutu en ligne ton programme.
Voilà. Donc, alors KDD, donc il y avait pas la semaine dernière. On va voir ce que ça donne là, parce que bon, dans cette histoire de Paris truqué quoi, dans le football. Des Allemands dans les divisions inférieures et tout ça, ça plante, mais vraiment dans le dernier épisode et tout, le goal qui devait laisser passer quelques buts comme ça se suicide, ce qui fait que le commanditaire est un petit peu gêné parce qu'il a engagé plein de fric, mais qui vient du caïd de la mafia de Berlin, le caïd russe de la mafia de Berlin, donc ça la fout très très mal et tout. Et qu'est-ce qui va se passer? On va peut-être remonter dans les hautes sphères de la police chez un certain policier Ripoux. Tout ça, ça va être dans le KDD deuxième saison, 8e épisode sur 9, qui s'appelle Cham, vendredi prochain à 22h15.
Et rendez-vous sur le toit du Carrefour La Beige.
En français, c'est Berlin Brigade Criminelle. Bien
Mais non, je faisais un clin d'œil au groupe KDD de Toulouse.
Bah, bien sûr.
T'es trop jeune, JB.
Les Coudeurs et Dorfmeister français.
Oui, aussi, si tu veux. Grand Dieu.
Alors,
s'enchaîne, c'est une catastrophe.
Du ciné à la télé, il y en a et ouais. C'est vraiment très très bien. Moi, ça me plaît bien quoi. Il y a donc encore une petite série non exhaustive, exception en fait du mercredi. Mercredi, il y a pas grand chose, pas terrible quoi. Non, ce soir, ça commence sur RTL9 avec un film que j'avais déjà programmé, je crois, la semaine dernière. Je suis un aventurier d'Anthony Mann en 55 avec James Stewart, Ruth Roman, Corinne Calvet. C'est magnifique, excellent. Hein, c'est excusez-moi, l'histoire d'un.
À tes souhaits. Bon, reprends ta respiration.
L'histoire d'un cow-boy qui tombe dans une petite ville de chercheurs d'or et tout, quoi, et qui commence à un petit peu zoner. C'est vachement bien foutu et tout. Il y a de l'action, il y a de l'humour, il y a de la romance. Ça, c'est normal. Hein. Il y a deux nanas en plus, quoi, tu vois. Alors, il va y avoir des fights, quoi, tu vas voir. Non, mais c'est vraiment bien, quoi. De toute façon, je suis un aventurier donc d'Anthony Mann sur RTL9 ce soir à 20h35. Sinon, sur Sci-Fi ce soir à 20h45, un John Carpenter que certains qualifieraient de mineur, mais ce n'est pas le cas. C'est Starman avec Jeff Bridges.
Celui de SF qui essaie de faire
Karen Allen.
De faire plus positif que ce que sera le reste de sa film. Hein.
Non, mais ça va. Ça, il est bien
c'est
ce film.
C'est gentil, ça se souvient. Ouais, c'est plutôt visé,
il est familial.
C'est plutôt, ouais, bah, visé ado et jeunesse. Non, c'est chouette.
Il a essayé de se mettre au niveau des focus group.
Voilà, et c'est suivi par le très trendy Les Décalés du Cosmos, The Film, à 22h35. Après Starman ce soir sur Sci-Fi.
Sinon... tiens, je t'ai envoyé un lien là sur les programmes aux États-Unis de Sci-Fi là qui change de nom. Tu l'as pas regardé?
Bah non.
Bah, j'aurais dû.
Lui, il sait très bien qu'il regarde pas le net. Il faut que tu l'envoies par SMS.
Voilà.
C'est sa femme qui lui transmet les messages importants parmi tous ceux que tu envoies.
Oui, non, mais ça, je sais, ouais.
Donc tu vois, sinon on n'a pas
vu. Tu sais que ça, c'est quand même un petit peu de la vie privée et ça tient du secret industriel là quand même. Hein. Tu es en train d'enseigner nos concurrents de Radio Le Mou et de Campus sur comment on fait.
Oui, que monsieur a sa secrétaire personnalisée, mais il a bien raison.
Et il vient de se plaindre qu'il n'avait pas le temps de préparer son émission.
Bon, TCM vous propose ce soir également à 20h45 du Jack Lemmon en voiture, voilà, avec un Billy Wilder qui est vraiment bien. Vraiment sympathique, hein. C'est basé sur une pièce de théâtre jouée à Broadway, spéciale première avec Jack Lemmon et Walter Matthau, Suzanne Sarandon et David Wayne en 74. Ça raconte l'histoire dans l'enceinte d'un tribunal. En fait, c'est plein de reporters et de reporteuses qui attendent la décision de la condamnation à mort d'un accusé pour envoyer le premier, la nouvelle, il a été condamné à mort, là, tout ça, quoi. Alors bon, c'est vraiment très très bien foutu avec Jack Lemmon et Walter Matthau. C'est magnifique, hein. Et c'est suivi à 22h30 d'un excellent western de Delmer Daves qui s'appelle Cowboy, avec Glenn Ford, Jack Lemmon, Dan Cashby et Brian Donlevy, où un jeune citadin eh bien, va s'éduquer aux joies du convoyage de bovins à travers l'Ouest. Non, c'est pas mal, c'est sympathique. Non, non, ça vaut le coup quand même. Sinon, il y en a un chef-d'œuvre quand même ce soir sur Cinépolar à 23h. Hein, c'est Les Salauds dorment en paix de Kurosawa.
Très avec, très bon film.
Avec Toshiro Mifune et Masayuki Mori.
Alors attention, là, méfiez-vous.
Attention.
Méfiez-vous, il est en VO et en noir et blanc. Et sous-titrage en blanc.
Des fois c'est dur, des fois c'est dur à lire.
Pas très lisible. Hein.
Des fois c'est dur à lire, hein, parce que bon,
c'est l'histoire d'un industriel qui va marier sa fille et qui est soudainement frappé d'une suite de meurtres. Et en fait, on apprend que dans cet industriel, par le passé, il a eu un de ses employés qui est mort dans des circonstances un petit peu étranges. Et donc, c'est un peu ce passé-là qui le rattrape. Il est vraiment très bon. Hein. Il prend bien à la gorge et tout. Pas mal du tout.
C'est sur Cinépolar, donc ce soir à 23h. Demain, sur RTL9 à 22h30, La part des ténèbres de George Romero, qui est pas mal. Hein. C'est une adaptation de Stephen King avec Timothy Hutton, Michael Rooker, Larry John Mayer, Patrick Brannan, Beth Grant.
Et des effets spéciaux. Mal.
Et quelques effets spéciaux, bien sûr. Du côté
j'ai tourné avec effets spéciaux.
Du côté effets spéciaux, jetez-vous sur le film de W9 demain soir à 20h35. Dark Crystal de Frank Oz et de Jim Henson.
Oh oui!
Ça, c'est magnifique, hein. Y a rien à dire.
Par le créateur des Muppets.
Et de
Fraggle Rock. Et c'est franchement, c'est un bonheur en bas. Regardez-le avec des enfants. C'est vraiment de la magie comme on n'en a plus. Comme la 3D l'a tué et tout ça, parce que c'est que des marionnettes. Je crois qu'il y a un seul plan où il y a un acteur qui court dans un champ. C'est vraiment un seul et ça dure 4 secondes.
Ouais,
tout le reste, c'est marionnettes. Ça, c'est à pleurer. C'est tellement c'est beau.
Ouais. D'ailleurs, c'est le reproche. Bon, j'ai pas vu le film en 3D, l'âge de glace, mais c'est le reproche que je fais au film. Quoi. C'est que on a l'impression qu'il y a pas mal de scènes qui ont été tournées justement pour que la 3D fonctionne. Et qui.
Ah, mais c'est ça actuellement. Hein,
et qui ne sont pas forcément.
Qui
sont pas forcément raccord. Quoi, avec le film.
Ouais, ils sont juste gratuites.
Qui font là un peu traîner le film en longueur, on va dire, au niveau de l'histoire, au niveau de. Voilà quoi. Bon, petit commentaire, c'est tout. Donc Dark Crystal ce soir sur W9. Demain soir, pardon, sur W9 à 20h35. Ou sinon sur Direct 8, qui a également l'excellent Les 3 jours du Condor de Cinépolak avec Redford, Fight the No Way. Demain soir, je voulais trouver sur Ciné Cinéma Famille à 20h40, 4 bassets pour un Danois de notre cher et adoré Norman Tokar. Même du chat de l'espace.
Je m'attendais à un film, je sais pas, avec Bruce Willis, avec un acteur série B et tout. Non, il a trouvé mieux que ça, un tocard.
Norman Tocard, hein, réalisateur bien nommé. Disney maison. Mais quand même excellent, parce que 4 bassets pour un Danois, c'est quand même pas dégueulasse, avec Suzanne Pleshette, jeune, ce qui n'est pas négligeable, Dick comme Jones et Charlie Ruggles. Sinon, dans un tout autre registre, mais tout autre.
C'est que chaque fois que Sébastien Langevin, je l'ai au téléphone, il m'a dit et tu sais quand est-ce qu'il repasse à toi l'espace? Ça lui est resté hein, quand même depuis le temps.
Ben je cherche, hein. T'en fais pas. Hein. Je cherche ça chaque semaine. Hein, ne t'en fais pas. dans un autre registre, demain soir sur Ciné Cinéma Club à 20h40, Querelle de Fassbinder. Avec Brad Davis, Jeanne Moreau, Franco Nero, Gunther Kaufmann et d'autres. Suivi, c'est une soirée Fassbinder à 22h30. Celui-là, j'ai jamais vu. Alors, et pourtant, j'en ai vu. Hein, putain, quoi. Pourquoi Monsieur R est-il atteint de folie meurtrière? Un Fassbinder de 70 avec Kurt Rabb, Lili Tungerer et Ingrid Cavan. Sur Cinépolar également. Demain soir, ça c'est le... On va dire... c'est le clone... Le clone parfait, hein, comme ce qu'il faisait à l'époque dans le cinéma italien, hein, on pompe tous les styles et tout et on fait notre adaptation.
Ah, on fait un crocodile alien. On fait un crocodile
ah,
alien.
Ah ben là, non, non. Allez. Là, on fait du sous James Bond avec à 22h25 coup de maître au service de Sa Majesté britannique.
Oui, oh, putain,
de Michele Lupo en 67 avec Richard Harrison, à ne pas confondre avec Dr. Doolittle, Rex Harrison, Adolfo Celli et Margaret Lee. C'est demain soir donc sur Cinépolar à 22h25.
Une merveille de bouse.
Ah ouais, t'as jeté un œil.
J'ai zappé, j'ai tenu. Allez, je dirais que même 2 minutes, c'était un peu trop.
Bon, bon, ok.
Mais faut dire aussi que j'étais peut-être mal tombé.
Honnêtement, ça m'intéresse. Ça.
On fait une petite pause musicale.
Demain soir, donc. Ouais.
Ok. Ok, alors vous allez essayer de me trouver qui c'est, hein. C'est pas mec, c'est du CJP4W. Beastie Boys, effectivement. For the Man, Beastie Boys, extrait de l'album Hello Nasty que tout le monde croyait avoir entendu. Bah ouais, c'est la preuve que justement, comme ça, j'aime bien passer
mais
des
non,
morceaux.
Mais ça fait longtemps aussi. Hein.
Oui, celui-là, ça fait longtemps, mais.
Album de quelle année
98-99. Hein. Je vérifie du coup.
Vérifie, je pense que c'est un peu plus tardif. Moi j'aurais dit plutôt 2000-2001.
98.
98, bingo pour toi.
C'est qui le seigneur de la route? Pardon, du sport, la suite est pour.
Oui, lundi hein, sur TPS Star à 20h40, un excellent film anglais d'Antonia Bird dont je vous parlais il n'y a pas si longtemps que ça, parce que c'est également une réalisatrice maintenant de d'épisodes hein, d'Inspecteur Lewis, enfin de Barnaby, des trucs comme ça, c'est-à-dire les grosses séries hein, britanniques, et qui m'en fait une petite série de films pas dégueulasses, dont ce Face en 97.
C'est vachement bien ça.
Avec Robert Carlyle, Ray Winstone, Phil Davis et Damon Albarn. C'est magnifique, c'est excellent.
Petit
une histoire de
polar noir teinté dramatique qui a reçu un prix à Cognac.
Qui a pas eu le prix, il a pas eu le grand prix, mais qui a eu un prix à Cognac.
Le prix du public ou un truc comme ça.
C'est magnifique.
C'était le prix du jury.
Ouais, ouais, c'était magnifique, hein, excellent, vraiment très très bien. Quoi.
La donc, jaquette, c'était toute simple, elle était noire avec le petit liseré jaune comme les vieux bouquins de la collection que vous connaissez.
Oui. Ah punaise. Ah ouais, d'accord.
Ils avaient fait du très très bon boulot et le film en lui-même était un chef-d'œuvre.
Voilà. Allez, bon, Face, donc c'est lundi soir sur TPS Star à 20h40. De toute façon, lundi, je vais vous citer que des films bien. Sur TMC, celui-là, à chaque fois qu'il passe, je vous le cite, Les Chiens de Guerre de John Irvine. Ah ouais, magnifique, avec Christopher Walken, Tom Béranger, Paul Freeman et Jean-François Stévenin, une troupe de mercenaires qui partent en Afrique pour délivrer un pays du joug de son dictateur sanguinaire, enfin le truc bateau, mais avec une équipe pareille, Christopher Walken, Tom Béranger, ça peut donner qu'un bon film. Les Chiens de Guerre, donc sur TMC, lundi à 20h40. Sinon, sur Ciné Cinéma Premier, lundi à 22h10, Ali G de Mark Mylod. Yeah!
In the house!
Respect,
il n'arrête pas de le multidiffuser, celui-là.
Ouais, 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 mais ah, bon, il y a des gens qui l'ont pas encore vu, quoi, tu vois, quoi, qui s'imaginent que Sacha Baron Cohen, c'est Borat, quoi, et puis point, quoi, tu vois. Donc, bon,
futurement, Bruno.
Avec quand même en bande-son derrière, il y a.
Ah, la bande-son, elle déchire, quoi.
Il y a la crème de la drum and bass de l'époque anglaise, puisqu'il y a Adam F et tout ça. On reconnaît pas en plus la patte de Adam F au tout début, parce qu'à l'époque on le connaissait que pour l'album Colors, et franchement il est très bon. Après c'est vrai que bon voilà, c'est Prime Sautier et tout ce que l'on veut, hein.
Allez G quoi.
Les émissions de télé sont mieux.
Lundi sur cinéma classique à 20h40, Commando sur Road de Lewis Milestone en 64 avec Dirk Bogarde et William Russell, excellent film de guerre. Et surtout Ciné Polar lundi à 21h, À bout portant de Don Siegel en 64 avec Lee Marvin, Angie Dickinson, John Cassavetes et Ronald Reagan, excellent, magnifique,
très très bon, étonnant.
Attention là, hein, là on plaisante plus, hein, c'est d'ailleurs un remake, mais j'ai pas eu le temps de rechercher le remake.
Le seul film
années 40, quoi.
Le seul film où Ronald Reagan n'aura pas eu à se mesurer un singe pour prouver qu'il était bon acteur.
Ouais, ouais, puis ça vaut surtout parce que.
Désolé,
une des scènes finales où il se fait casser la gueule, quoi, en beauté, quoi. Malheureusement, c'est... rien que pour cette scène, tu vois, ça vaut le coup de voir Ronald Reagan se prendre des pains dans la gueule et tout, se faire laminer, quoi, tu vois, quoi, c'est excellent.
Eh ouais, Gorbatchev avait déjà la VHS.
Mardi toujours. Sur TF6, alors là, vous allez m'en vouloir, c'est une soirée spéciale Marx Pécasse avec tout d'abord à 20h40, deux enfoirés.
Attends, t'as dit quel jour?
Stop.
Mardi.
C'est tombe bien, on a barbecue ce soir-là, tu t'en souviens pas?
Ouais,
allez
ouais,
hop,
ouais.
On passe au mercredi.
14 juillet en plus, hein, 14 juillet. Deux enfoirés à Saint-Tropez, donc avec Jean-Michel Noiret, Philippe Carrois.
Je savoir, coupe le micro. Je vais lui saboter, vas-y.
Philippe Carrois et Caroline Tresca.
À part ça, tu vas bien?
Oui, très bien, et toi?
Ouais, ouais, super. Bon, et alors, ce barbecue, ça se prépare?
Ben, comme d'habitude, hein, tu sais, quand je fais un barbecue, il pleut, et tout le reste.
Avec Olivia Dutronc, donc... Xavier le Petit, un film de 83, et à 23h45,
j'adore ces effets spéciaux. C'est génial. Moi, j'ai beaucoup tourné avec effets spéciaux.
On est venu là pour s'éclater, un très vieux Max Pécasse de 79.
Pour mardi soir. J'apprends le gâteau.
Ouais, ouais. Je trouve que les films de Max Pécasse, quand même, plus on passe les films et plus ça commence à moisir, quoi. Oui, Luce, pardon.
Alors, tu vas prendre le premier disque de la pile et tu vas choisir le morceau. le morceau que tu veux, sauf pas le morceau du titre.
D'accord.
Hein, parce que c'est comme vachement bateau, quoi, tu vois.
Je l'ai lu.
Non, non, mais c'est pas celui-là, tu le mets pas parce que c'est le seul que tout le monde connaît, quoi. Voilà, alors bon.
Ça
suffit. Alors, tu mets ce que tu veux, le morceau que tu veux. Y a pas de problème.
The Cordettes Lollipop, à savoir que c'est un morceau qui a été parodié dans la bande originale des Powerpuff Girls. Ah oui!
C'est vrai que j'avais oublié que tu adorais cette série en son temps.
Mais aussi pour la bande-son qui est absolument monstrueuse, quoi.
Et ce morceau, dont qui est également un des morceaux de la bande-son du film Stand By Me de Rob Reiner. qui passera sur Ciné Cinéma Famille mardi prochain à 20h40, hein, le film qu'on présente plus, hein, il est magnifique, hein, avec Will Wheaton, River Phoenix, Corey Feldman et un tout jeune Jerry O'Connell. Mardi prochain toujours sur Ciné Cinéma Classique à 20h40, du sang dans le désert, Anthony Mann 57, c'est un western bien sûr, avec Henry Fonda, Anthony Perkins et Betsy Palmer. Ou sinon mardi prochain sur TCM à 20h45, Autopsie d'un meurtre de Otto Preminger en 59, avec James Stewart, Lee Remick, George C. Scott et Ben Gazzara. Ou alors la soirée Ciné Polar, toujours mardi à 21h, Tueur d'élite de Sam Peckinpah en 75 avec James Caan, Robert Duvall, oui, Arthur Hill, Bo Hoskins et Mako. Waouh, waouh. Et à 22h25, une petite piqûre de rappel, Le Grand Couteau de Robert Aldrich, surtout pour la magnifique prestation de Jack Palance à ses côtés, Ida Lupino, un excellent Roach Tiger également dans ce film de Aldrich qui date de 55 sur Ciné Polar. 22h25, c'est mardi prochain. Comme prévu, mardi, mercredi, bah, pas cinéma, rien, non, non, bah, sortez dans les salles, allez voir les nouveautés. Jeudi,
ouais,
sur
RTL9... Il paraît qu'il y a 2012, it's catastrophique.
Non, c'est pour novembre 2012.
C'est pour novembre,
oui.
Parce que je sais pas si t'as vu la parodie de la bande-annonce qui a été faite par IO9.
Enfin, tu m'as envoyé là, Explosion, Michael Bay Explosion.
Oui, oui, Mike Explosion.
Je confonds parce qu'effectivement, tu nous as envoyé deux bandes-annonces, une pour 2012... Et une pour je sais plus, le Roland Emmerich.
Et, ouais, et dans les commentaires, il y avait la parodie et je l'ai foutu en ligne. C'est-à-dire, si vous allez sur supplementweekend.fr dans nos chroniques, le premier lien que vous avez, c'est la parodie de la. C'est-à-dire, ils ont repris le générique de 2012, ils ont juste changé la musique et foutu un titrage. D'accord. Et c'est à se pisser dessus de rire. Thomas a dit, ça massacre, ça démystifie le film. Moi, je vois pas en quoi un film de Roland Emmerich, il faut le mystifier. Mais c'est.
J'ai des souvenirs que Moon 44 était correct. Mais c'était il y a très, très, très longtemps.
C'était l'un des tout premiers.
Voilà. Bah, tu voilà. Sais, c'est comme les Michael Keaton, hein. Tu vas chercher les bons, c'est pas les derniers. Voilà, c'est dit aussi.
Voilà.
Bah ouais, bah c'est. On pourrait le dire également, hein, des films qui font ensuite des numéros 2, des numéros 3 et tout, quand on a eu un super opus premier.
Oh, des fois, t'as des suites qui sont bien meilleures que le premier.
Ouais, mais.
Les Star Wars, ces trois premiers étaient une merde, hein, parce qu'il fallait qu'ils se runnent avant qu'ils fassent des films bons.
Ouais, mais par contre, French Connection 2 est quand même inférieur à.
Au French Connection 1 qui est passé hier soir, si je me trompe pas, sur.
Je trouve que ça contrebalance bien parce que c'est pas la même ambiance. C'est le flic qui est paumé à Marseille et qui est complètement largué. Moi, je trouve que justement, ça joue très très bien.
Ouais, mais bon, c'est quand même un petit peu plus mollasson. C'est un petit peu plus mollasson. Ah bah, hein, Frankenheimer.
Il se prend un coup.
N'est pas Friedkin,
ça
c'est clair. Hein, Frankenheimer est quand même un bon faiseur, ça y a pas de problème. Hein, mais il n'a pas la patte de Friedkin, ça c'est clair. Hein, de toute façon, on le ressent dans ce French Connection 2 qui se passe plus d'ailleurs en Europe que à New York, surtout. Avec toujours Popeye Doyle. Hein, et bon, ça vaut le coup parce que la scène où il se fait injecter de l'héroïne et où il devient dépendant et tout est pas mal, est vraiment très très bonne.
Ça, c'est passant là parce que comme tu en parles, c'est jeudi cette semaine. Jeudi sur RTL9 aussi.
Ouais.
D'accord, ok. Non, tu l'avais pas dit, donc je reprends.
Yes. Et suite, on retrouve également Fernand Noreille dans le rôle du grand méchant, hein, le qui s'appelle Charnier d'ailleurs, quoi. Bernard Fresson et Jean-Pierre Castaldi dans French Connection 2. C'est sur RTL9 jeudi prochain à 20h35. Sinon, un bon film, le dernier d'ailleurs, pour son réalisateur, sur Ciné Cinéma Premier jeudi prochain à 20h40, The Last Show de Robert Altman, avec Kevin Kline, Lindsay Lohan et Meryl Streep, entre autres. Sinon, on a jeudi, toujours sur Ciné Cinéma Émotion, à 20h40, La Vie des Autres, le film de Enkel von Donnersmarck, avec Ulrich Mühe.
5 étoiles, voilà. Film de la semaine, là,
ouais. Ouais, mais attention, parce que juste derrière, sur Ciné Cinéma Star, à 20h40, il y a Affreux sales et méchants d'Ettore Scola en 76.
Qui est très, très bon aussi.
Avec Moni Domo,
mais j'ai quand même un gros penchant sur La Vie des Autres.
Celui-là, si vous l'avez jamais vu, alors là, c'est le cinéma italien dans ce qu'il a de meilleur. Hein. Bon, maintenant, ils arrivent plus quoi faire des films comme ça, mais enfin bon, voilà. Mais il y a eu cette période là, c'est absolument magnifique. Ou alors, vraiment très très rétrograde, mais d'une beauté absolument magnifique sur Ciné Cinéma Classique à 20h40, La Beauté du Diable de René Clair avec Michel Simon, ah ouais. Gérard Philippe et Simone Valère. Là, laisse tomber, hein, tu vois quoi. À partir d'une histoire basique, le mythe de Faust. On te fait un truc comme ça, bon bah là, chapeau, hein, y a rien à dire. Ou alors, la soirée TCM avec à 20h45 Délivrance de John Boorman, John Vox, Ned Beatty, Burt Reynolds, suivi à 22h35 d'un autre John Boorman moins connu, Le Point de Non-Retour, qui est déjà passé la semaine dernière, je t'en ai parlé, hein, oui. J'en reparle parce que c'est tiré d'un bouquin de Richard Stark alias Ed McBain alias Evan Hunter, et avec un Lee Marvin qui est excellent, magnifique, hein, John Vernon, Angie Dickinson, bref, très très bien. Sinon, sur Ciné Polar, jeudi prochain, il y a également Le Gang de l'Oiseau d'Or de Sam Wanamaker, un film britannique de l'année 70 avec Yul Brynner, Edward Woodward. Qui est Edward Woodward?
Non, mais tu me poses pas la question.
L'équaliseur, bien sûr. Charles Grey.
Oh, punaise. Ah ouais, ouais. Oui, c'est... Oh, putain.
Charles Grey, donc dans Le Gang de l'Oiseau
mais
d'Or.
Mais il a fait énormément de polars, je veux dire, d'espionnage et des trucs comme ça. Dans les
bien sûr,
70.
C'est un acteur des années 60, 60 jeune 70, dans les années ouais. 60. Quand on le voit dans l'équaliseur, là, bon, bah ok, hein, il a déjà pratiquement atteint le troisième âge. Et les cheveux blancs et tout, quoi.
Justement, je trouve ça très amusant de parce que moi j'ai découvert ces films après avoir vu les séries. J'ai fait le lien après avec cet acteur. Et c'est vrai que c'est le côté assez noir quand même à l'époque. Les films anglais sont vraiment des trucs sont lourds. C'est-à-dire, ils n'hésitent pas, il n'y a aucune retenue par rapport aux films américains.
Oui, ça cartonne bien, ça, il n'y a pas de problème.
C'est fabuleux.
Sinon, un film pour toi, Xavier, sur Cinéfix, jeudi prochain à 21h, oui. Créature de rêve de Johnny Hooks.
Je ne peux même pas entendre parler.
Anthony Michael Hall.
Allez, avoue que c'est ton film.
Et
fétiche.
Bill Paxton. L'autre jour, je suis tombé sur la scène où les deux, ils virent la bande de motards, quoi, tu sais, de la fête. Et c'est toujours aussi marrant. Bon, bah, je suis désolé, quoi.
Oui, tu peux être.
Moi je vois pas pourquoi tu devrais être désolé.
Donc Cinéfix, donc une créature de rêve
c'est
de John Hughes.
Merde.
Mais non, c'est non. Pas vrai.
C'est
mais
un non. Chier. Ça te colle à la peau.
Allez.
Assume.
Alors vendredi sur RTL9 à 20h35, L'Aigle s'est envolé de John Sturges. Il est pas terrible, mais bon, il se laisse regarder quand même, ne serait-ce que pour la distribution impeccable. Michael Caine, John Marsh, Donald Sutherland, Donald Pleasance, Robert Duvall. Vas-y mon gars, ça a des potes à fond les manettes. Et vendredi, bah, c'est même pas la peine d'essayer de téléphoner à Xavier à partir de 21h, car sur Cinéma Club, là il va prendre son abonnement à partir de lundi direct.
Non, j'ai trop
c'est
cher.
Le Daft Punk Electroma que tu avais présenté d'ailleurs ici même dans cette émission.
Non, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Thomas qui
Thomas.
L'a vu.
Thomas avait présenté donc dans cette émission qui était sortie dans une seule salle de cinéma à Paris, eh bien...
Présenté que le samedi soir, les mecs venaient du monde entier pour aller le voir.
Eh oui, et donc, eh bien là, Cinéma Club, vendredi prochain à 21h, Daft Punk's Electroma, les gars.
Ouais, mais je crois que Thomas a le DVD, donc...
Oui. Oui, disponible en DVD, bien
pas
sûr. Vendredi toujours, alors pratiquement jusqu'à la fin, c'est également des super films, hein, avec vendredi sur Cinéma Classique à 20h40, Dial Wrong Number, c'est le titre original. Raccrocher, c'est une erreur. Le film d'Anatole Litvak en 48 avec Barbara Stanwyck, Burt Lancaster, Anne Richards et Ed Begley. Un film dans lequel Burt Lancaster, on sait pas s'il est gentil ou s'il est méchant. Jusqu'à la fin, tu hésites, tu sais pas si il fait partie du truc
complot.
Et tout. Parce qu'en fait, c'est l'histoire de Barbara Stanwyck et tout, quoi, qui décroche son télé, reçoit un coup de fil et tout, quoi. Et c'est une conversation qui est pas destinée. Et en fait, elle va apprendre qu'il y a des gens qui veulent essayer de la tuer. Et donc, elle va flipper tout le film et tout, quoi, savoir et tout. Et chaque fois que le téléphone va ressonner et tout, quoi, elle va flipper de sa race à fond les manettes. Mais c'est magnifique, c'est vraiment très très bon. Hein. C'est Cinéma Classique à 20h40, vendredi prochain. Raccrocher, c'est une erreur. Ou alors, la soirée TCM, une soirée spéciale Vincent et Minnelli avec deux de ses plus beaux films. Tout d'abord, Les Ensorcelés avec Kirk Douglas, Lana Turner, Gloria Graham et Walter Pigeon. Ou alors, La vie passionnée de Vincent Van Gogh avec toujours Kirk Douglas et également Anthony Quinn dans le rôle du peintre Matisse.
Ne pas oublier les plans rapprochés hein, sur TCM qui sont des documentaires qui suivent en général certains films et qui sont vraiment des clés fabuleuses pour mieux décoder les films. C'est très très bien fait.
Plan rapproché, c'est con, j'ai pas ramené le programme.
C'est produit par Gaïa Land.
Oui, mais plan rapproché qu'on va pouvoir également voir sur France 4 ou France 5 à partir de vendredi prochain en première partie de soirée. Donc j'ai pas appris le programme, j'ai repéré ce truc-là.
C'est des programmes courts hein, de un quart d'heure, mais voilà. C'est prévu après les films. Et franchement, il vaut mieux avoir vu le film Parce que du coup, ça donne envie de revoir le film.
Ouais, ouais, mais je crois que dans le cas de cette première émission, il s'agit d'un Hitchcock ou d'un film vachement connu, quoi. Donc, qu'on a.
En général, c'est vraiment des grands classiques prennent et qui analysent. C'est vraiment du bonheur.
Voilà, donc ça, sur TSM, donc un vendredi prochain, la soirée Minelli et Kirk Douglas. Sinon, sur Cinéfix, vendredi prochain à 21h, La Bête de la Caverne Hantée de Monte Hellman. Alors ça, c'est un réalisateur vachement hype, c'est le carton pâte. Ouais, ouais, ouais. Vachement hype, quoi, mais qui a également tourné des grosses bouses comme ça, quoi. mais bon, c'est intéressant, quoi, parce que bon, c'était vraiment le genre de films qu'on aimait bien quoi à l'époque avec Michael Forrest et Sheila Noonan. Sinon sur la chaîne Action, un western de John Huston, Le Vent dans la Plaine, à 21h avec Burt Lancaster, Audrey Hepburn et Lillian Gish. C'est l'histoire du jeune indien qui est adopté par des blancs et que les indiens essaient de récupérer quoi des années plus tard. Donc un petit peu le contraire de La Prisonnière du désert, mais c'est pas la même chose du tout quand même dans l'histoire, mais bon, tu vois un petit peu le genre quoi. La Prisonnière du désert, tu connais pas?
Oui, oui.
Bon, quand même, ok.
C'est le dernier film de John Wayne, si je me souviens bien.
Non, pas du tout. Alors là, non.
Alors, je me trompe, mais je connais le titre.
Ouais. C'est parti là pour aller.
Bon. Donc, Le Vent dans la Plaine de John Huston en 59, c'est sur Action, jeudi, vendredi prochain à 21h. Et je termine, comme la semaine dernière, par Clint sur Orange Ciné Choc à 21h. L'inspecteur ne renonce jamais de James Fargo en 76. Avec outre Clint, Time Daly et John Mitchum. Bon, c'est pas le meilleur, faut dire franchement quoi. Mais ça reste du bon, du Burnet, du calibré. L'inspecteur ne renonce jamais. Orange Ciné Choc, vendredi prochain à 21h.
Voilà, et merci en tout cas d'être à notre écoute. Je vous rappelle donc que tout à l'heure, à partir de 17h jusqu'à lundi 14h, Radio FMR 7 ses programmes complètement à booster, tout simplement parce que on sera en train de rénover les studios. Donc la semaine prochaine, pas mal de choses auront changé, il faudra qu'on reprenne nos marques. Et qu'en attendant, je vous déconseille d'écouter ceci.
Igar qui sera en tournée dans toute la France à la rentrée prochaine avec Rire.
Oui, parce que Rire et Chanson, pitié quand même, allez hop. Et je voulais parler de À la recherche de Calvin et Hobbes, donc, qui est un bouquin qui va sortir aux États-Unis en octobre, dont j'ai pu avoir les bonnes feuilles un peu en avance. Malheureusement, Actua BD n'a toujours pas publié l'article. Et c'est vrai que j'aurais pu leur griller la politesse pour le coup. Bon, je trouve que ça aurait été dommage. On en reparlera la semaine prochaine, ainsi que j'espère qu'on aura peut-être quelqu'un pour parler. De Japan Expo. JB se réveille doucement, lit sa feuille.
Ah, c'est dur.
Mais bon, je pense que la seule chose qu'il y a à dire, c'est retrouvez-nous pendant tout ce week-end sur le site supplementweekend.fr pour jouer, surtout pour vous inscrire et participer au top 5, parce que pour l'instant, je peux pas dévoiler le top 5 des BD, ni le top 5 des cinémas. Il y a eu au moins 8 votes dans les deux, et il y a 4 ex-échos. Ça fait un peu lourd, quoi.
D'accord.
Alors moi, il y a une tendance générale qui s'installe, c'est assez intéressant, c'est pas mal du tout.
Ok, donc vous écoutez FMR sur 80.1 MHz, nous sommes en direct en alternance avec Booster FM. Et on
jusqu'à 17h, et non, jusqu'à 17h aussi, puisque d'accord. À 17h on va devoir basculer, on va devoir couper toute la diff, voilà.
D'accord, donc dans le prochain épisode...
Et ben dans le prochain épisode, on va parler de Calvin et Hobbes, on va parler de Japan Expo, j'espère. Il y a pas mal de bouquins qui m'attendent, dont le retour de Supreme. Oui, du comics. Le 2, exactement, qui est arrivé chez Delcourt. Voilà, ciao, bye bye, merci à tous, merci de votre préférence, de votre écoute, de votre fidélité.
Tchuss et bonne semaine à vous.
Ouais, et puis bis à vous, portez-vous bien. Attention au soleil, pareil qu'il pleut. Les traite le soleil, des fois il pleut. De suite du sport pour la grande boucle et la grande dope.